music is music. That's all I go by. I'm not such a technician.
De son enfance, dans la plus grande pauvreté à la gloire mondiale, comment cet homme, Louis Armstrong, Satchmo, a en 70 ans changé le cours de l'histoire musicale du XXe siècle et même du XXIe, telle est la saga que nous allons vous raconter dans Si Armstrong m'était compté.
Il y a même nom avec deux fils,
Sammy Lombas
et Louis Armstrong. Louis Armstrong était pour la paix et la joie. Et quand l'illustre Agamemnon s'aperçut que l'un de ses fils détenait la sagesse, il lui acheta une trompette d'or et il lui dit « Va, va claironner paix et joie sur le monde. » What a wonderful
world. All music is jazz music. I love my baby, ba-da-da-da-da. You know, everything was popular one time or other. And me meow back boo. What is your job? I'm going in.
Dans notre rendez-vous.
Dans notre rendez-vous.
Telle est la saga que nous allons vous raconter dans Si Armstrong m'était compté. Si Armstrong m'était compté, épisode 5, premier enregistrement de Louis Armstrong. Alors certes, ce n'est pas encore Louis Armstrong en tant que soliste, il est encore avec King Oliver, mais ce sera quand même ses premiers enregistrements. On est donc le 5 avril 1923, et même ça durera le lendemain, le 6 avril, mais Louis va alors réaliser ses premiers enregistrements. Louis est devenu moins timide, on peut dire qu'il est même plus sûr de lui musicalement, et même si King Oliver n'a pas vraiment saisi l'importance de l'enregistrement pour le jazz, ses premières faces gravées vont devenir la base de la renommée de Louis et vont influencer bien de musiciens et faire connaître Armstrong à un public bien plus large que celui de Chicago.
Thank you.
Pourtant, si King Oliver ne perçoit pas l'intérêt de l'enregistrement, l'industrie du disque, donc du 78 tours, est en plein essor. La popularité du jazz sur disque, principalement destinée aux auditeurs noirs, ont immédiatement séduit un public blanc. Les Rice Records, comme on disait, deviennent une marchandise recherchée. L'enregistrement se fera donc dans les studios du label Genette, à Richmond, dans l'Indiana, distant de 5 heures de train depuis Chicago. Le responsable de cet enregistrement est Fred Wiggins, qui gérait la salle d'exposition des pianos Genette à Chicago. Beaucoup moins brillant pour la firme Genette, sous couvert d'anonymat, c'était la firme qui enregistrait pour son label, et le label consacrait une grande partie de cet enregistrement au Ku Klux Klan. Les défilés du clan étaient alors un spectacle habituel à Richmond. On est en 1923 et par conséquent, les conditions d'enregistrement sont ce qu'elles sont à cette époque-là. Le studio, c'était certainement le pire endroit pour enregistrer de la musique. C'était en fait une cabane en bois située tout près de la rivière Whitewater. Le bruit de la rivière était beaucoup moins gênant que la cacophonie créée par la voix du chemin de fer qui obligeait les musiciens à arrêter l'enregistrement. À cela s'ajoutait le fait qu'à l'intérieur, l'insonorisation du lieu se résumait à de la sciure, de bois, dans les murs et les draperies. Et c'est dans ces conditions que sera enregistré le thème « Mandy Lee Blues ». Thank you. L'ingénieur en chef, titre dénué de toute signification presque, Ezra Wickemeyer, était chargé de faire trois prises d'un morceau à partir desquelles il devait en choisir une. Côté moyen d'enregistrement, nous sommes en 1923 et tout se fait donc d'une manière complètement acoustique. Les musiciens sont face à un mégaphone géant, ressemblant à un énorme parapluie, comme pour capturer le son. Le mégaphone canalisait le son dans un cornet étroit contenant un stylet qui gravait donc directement les empreintes sur un disque de cire. Calvaire pour les musiciens qui durent enregistrer durant deux jours entiers pour graver les 9 titres prévus. Titre suivant, I am going away to where you are mine. Séance du 5, on va attaquer le morceau le plus intéressant de la séance, c'est Shimer's Blues. Alors dans ce morceau, la clarinette de Johnny Dodds se faufile hors du temps et hors du rythme presque, et puis vers la fin du morceau, son solo va donc débuter à 1,57 très exactement, ce sera donc lui qui va prendre le relais, des notes audacieuses, ascendantes, des trilles, tout est dit. On a changé d'époque, la puissance sonore en plus. Shimer Blues, King Oliver, 5 avril 1963. Thank you. premier solo enregistré par Louis Armstrong, donc sur ce Shimos Blues. Alors, quels étaient les musiciens à cette époque-là du Creole Jazz Band? Il y avait tout simplement, évidemment, King Oliver et Louis au cornet. Honoré Dutré était au trombone. Lil Armstrong, plutôt Lil Harding, était au piano. Bud Scott était au banjo. Bibby Dodds à la batterie et Johnny Dodds à la clarinette. Johnny Dodds, aucun d'entre nous n'avait jamais vécu cela. Nous étions tous très très nerveux. Surtout Joe Oliver. La seule personne qui semblait à l'aise, presque insouciante, c'était Lil. Louis, lui, prend les enregistrements les uns après les autres. C'était pour lui simplement une façon différente de jouer les morceaux. Tout ce que nous avions à faire, c'était de respecter le chronomètre. En effet, les morceaux étaient les mêmes que ceux que nous jouions au Lincoln. Mais là, pour des besoins d'enregistrement, ils étaient forcément beaucoup plus courts. Alors, à cela va se rajouter, par rapport à la séance d'enregistrement, qu'on est à Richmond et que le Ku Klux Klan est omniprésent dans la ville. Par conséquent, il est hors de question que les musiciens du Creole Jazz Band, tous noirs, couchent donc à Richmond. Ils vont donc devoir prendre le train pour retourner à Chicago. 5 heures de train, et oui, et revenir le lendemain pour de nouveaux morceaux à enregistrer. Et là encore, 5 heures de train, donc pas dans les meilleures conditions pour enregistrer, mais ils vont revenir avec la ferme intention de faire mieux que ce 5. Ce sera donc les enregistrements du 6 avril 1923. Les musiciens sont à nouveau face au mégaphone géant et on va tout de suite attaquer la séance par une compo donc de Joe Oliver, Snake Rag. Ils se sont carrément acclimatés au studio, si on peut dire, parce qu'en plus, il y fait très chaud dans le studio. Parce que pour que le stylet puisse graver directement dans la cire, il faut qu'elle soit à une certaine température un peu molle. Et par conséquent, on étouffe un peu dans ce studio d'enregistrement, appelons-le ainsi. Et donc, on va poursuivre avec le thème suivant, Wither Bird Rag, dans lequel on pourra être gratifié d'un interlude à deux cornets entre Joe et Louis. Alors il faut quand même savoir que cet album portera un drôle de titre, un titre assez étrange. On l'affirme Jeannette l'intitulera tout simplement « Snappy Dance Hits by Exclusive Jeannette Colored Artist » et nulle part ne figurera le terme de jazz. Wither Bird Rag. Terminer la séance, on va donc enregistrer le célèbre, dorénavant devenu célèbre, Deeper's Mouth Blues, que l'on a attribué à tort, à mon avis, comme une compo de Louis Armstrong. Ce qui est important dans ce morceau, c'est que ce n'est pas Louis Armstrong qui va prendre le solo, c'est Joe Oliver, et ce solo fera date, il sera imité maintes et maintes fois. Et puis, il faut dire que là aussi, ça paraît pratiquement complètement insensé, mais Baby Dots, trop imbibé d'alcool sans doute, oubliera même de prendre le solo de batterie. Deeper's Mouth Blues par King Oliver le 6 avril 2023. 1923, bien sûr. Voilà, j'en suis arrivé à la fin un peu fatigué, raison pour laquelle je me suis planté dans la date et je vous prie de m'en excuser. On se retrouvera nous la semaine prochaine pour un nouveau Si Armstrong m'était compté, avec là aussi de belles péripéties et de belles aventures. Deeper's Mouth Blues pour terminer l'émission.